France Inter, le 18-20.
Le 18-20 ce soir avec un nouveau volet de notre série consacrée à la campagne invisible. Ces sujets majeurs pour le pays et qui n'auront pas ou peu suscité de débats pendant cette présidentielle. Aujourd'hui, le handicap. 12 millions de nos concitoyens sont sous une forme ou sous une autre dans une situation de handicap. 12 millions. Ce chiffre est colossal. Les programmes des candidats en lice pour le premier tour détaillent des mesures, évidemment, des propositions, proposent des amendements à la grande loi de 2005. Mais à entendre les collectifs et les associations, on est encore très loin du compte. Intervenez, amis auditeurs, jusqu'à 20h.
Nicolas Demorand. Le téléphone sonne.
01 45 24 7000, franceinter.fr, Twitter avec le mot-clé Telson. Ce téléphone sonne a pour invité Éric Blanchet. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le directeur général de l'ADAPT, Association pour l'insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées. Et Vincent Michel, bonsoir.
Bonsoir.
Président de la Fédération des aveugles de France. Un jugement, une analyse sur la campagne en elle-même. Est-ce qu'elle vous a semblé concernant le dossier du handicap de qualité ou non, Vincent Michel?
Non, c'est pas très brillant. On a entendu quelques déclarations de portée générale. On parle des handicapés, mais on parle vraiment pas des personnes handicapées. On n'entre pas, je dirais, dans la distinction des différents handicaps. C'est globalement assez décevant. Je pense qu'on a connu mieux.
Éric Blanchet, l'ADAPT a envoyé un questionnaire aux différents candidats. Quel regard portez-vous sur la campagne déjà et sur les réponses donc formulées par les uns et les autres?
Écoutez, la campagne a soulevé beaucoup de bonnes intentions, très générales, et je reprends les propos précédents. On ne sait pas parler du handicap en France, on fait des généralités et on met tout le monde dans le même panier. Alors on peut pas parler de handicap physique comme de handicap psychique, comme de handicap mental. On est dans des histoires de vie et quelque part il y a un véritable amalgame qui fait qu'en fin de compte on ne sait pas de quoi on parle et on ne sait pas quels sont les enjeux pour les personnes handicapées, parce que n'oublions pas que derrière le mot handicap ce sont des hommes, des femmes et des enfants.
On ne sait pas parler du handicap, dites-vous?
Non, parce qu'on en parle de manière extrêmement
globale.
Et après on va prendre un sujet. Par exemple, parlons de l'autisme. C'est un sujet qui, en France, fait beaucoup de débats actuellement, parce que c'est le constat d'un échec qui essaye de se redresser. Mais souffrance des gens derrière les situations d'autisme sont des choses qui sont extrêmement complexes et compliquées. Et on voit bien que la France est toujours très en retard là-dessus. Mais je vous parlerai du handicap psychique, des traumatisés crâniens. Je vous parlerai des handicaps moteurs, d'une loi qui a fait rêver tout le monde, la loi de 2005, qui aujourd'hui, même s'il y a des choses qui ont avancé, puisqu'on n'arrête pas de nous dire qu'il y a des choses qui ont avancé, bien sûr, il y a des choses qui ont avancé. Mais on reste quand même en France avec une incapacité à pouvoir se déplacer, pardon, pour aller travailler pour ceux qui le peuvent.
Est-ce qu'il y a tout de même un programme ou des programmes, un candidat ou des candidats qui ont une démarche plus structurée que les autres, un programme plus nourri, plus complet, Éric Blanchet?
Écoutez, j'ai trouvé dans un seul programme le mot autonomie. Quelque part, aujourd'hui, on est une société qui, à mon sens, devrait favoriser l'autonomie pour la personne et quel que soit son niveau de départ. On parle beaucoup des autres, évidemment on parle des familles, c'est évident, on parle des aidants, mais parle-t-on de l'avenir, d'un projet d'avenir pour des jeunes, de l'accès à l'école, mais de l'autonomie au sens le plus large possible, l'autonomie par le logement, l'autonomie par le biais des ressources décentes, l'autonomie par l'accès aux soins, l'autonomie par l'accès au vote. Qui va pouvoir voter aux élections présidentielles? C'est une question intéressante malgré tout ce qui a été mis en place.
Qui nous arrive d'un peu partout au standard.
L'autonomie, c'est un bon sujet que l'autonomie...
Vincent Michel.
C'est un bon sujet que l'autonomie par rapport au vote. J'ai été...
Comment font les aveugles pour voter, nous demande Adeline. Le vote est normalement secret et je n'ai jamais vu de bulletin en braille. Dites-nous,
eh bien,
Vincent
voilà,
Michel.
Aujourd'hui, j'ai été interpellé par un électeur de la mairie d'Issy-les-Boulineaux où il existe des machines à voter. Et ces machines à voter, normalement, sont adaptées pour les personnes aveugles. Mais elles nécessitent, au moment du vote, une manipulation que la mairie d'ici les Moulineaux se refuse à faire parce que ça freinerait, paraît-il, le flot des électeurs à l'intérieur du bureau de vote. Alors voilà, on est devant une situation où les nouvelles technologies permettraient d'avancer, mais où on ne veut pas, on ne souhaite pas les appliquer totalement.
Mais comment vous allez faire ? Dites-nous, Vincent Michel. Vous êtes accompagné, c'est
alors
ça ? Comment ça se passe ?
Je peux être accompagné, je peux très simplement aller au bureau de vote, prendre chacun des bulletins de vote, faire mon petit classement par ordre alphabétique ou selon l'ordre que je choisirai, aller me cacher un petit peu derrière le rideau et puis glisser le bon bulletin dans l'urne tranquillement. C'est un bulletin de vote en braille, c'est inimaginable parce que ça nécessiterait des frais considérables et une organisation absolument, absolument délirante. Je crois que les aveugles ont toujours voté. Ce qui est regrettable, comme je le disais, c'est que lorsque les nouvelles technologies nous permettent d'avancer vers l'autonomie, cette autonomie qu'évoquait Éric Blanchet, eh bien, on s'y refuse.
D'un mot, Éric Blanchet, vous l'avez dit, que vous avez repéré dans un seul programme le mot autonomie. C'est le programme de qui ? Je vous demande la question avant qu'elle n'arrive. Je vous pose la question avant qu'elle n'arrive au standard.
C'est celui de Monsieur Macron qui a tout simplement développé la notion d'autonomie. Après, je ne dis pas que les autres ne l'ont pas fait, mais en tout cas, je ne l'ai pas lu. On va dire ça comme ça. Peu et y compris dans le programme de Monsieur Macron, on interroge la personne handicapée. C'est quelque part aujourd'hui, on fait comme si elle n'existait pas. On va interroger les familles, on va interroger. Et c'est légitime hein, d'interroger tous ces gens-là. Mais quelque part aujourd'hui, il n'y a pas encore de considération du citoyen handicapé qui a, vous imaginez, 9 millions de personnes qui vont pouvoir aller voter si toutes ont la capacité de pouvoir voter. Mais même si on n'a que la moitié, qu'est-ce que ça représente en termes de puissance électorale ? Donc ça, je pense que malheureusement, les personnes handicapées n'en ont pas toujours conscience et je pense qu'il faut vraiment qu'elles aillent voter, qu'on leur donne les moyens d'aller voter. Pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, les voisins, les amis, dans les établissements, les professionnels, permettons aux personnes d'aller voter. Permettons vraiment cet accès à la citoyenneté, c'est extrêmement important.
C'est effarant d'entendre ça en 2017.
Vous savez, on a vécu une loi qui était la loi de 2005. Moi, c'est un système de référence au vu de mon âge sur lequel il y avait vraiment eu un espoir de la citoyenneté des personnes handicapées. Pour la première fois.
Citoyens en situation de handicap.
Pour la première fois, une loi posée face à une personne, son droit à la citoyenneté. Ça a eu quand même beaucoup de conséquences. Vous avez ce qu'on appelle la Convention internationale des droits des personnes handicapées, qui aujourd'hui font vraiment avancer quelque chose, le droit opposable d'une personne à pouvoir attaquer la société parce que on ne lui permet pas de pouvoir être un citoyen. Et ça, c'est une avancée majeure, même si aujourd'hui en France, on a un peu de mal avec ça. Néanmoins, je pense réellement que c'est pour ça que l'acte du vote est un acte extrêmement important, qu'il ne faut pas baisser la garde. Le citoyen handicapé est l'égal du citoyen valide. Il faut se le dire une fois pour toutes.
Mmh. Vous voulez ajouter quelque chose, Vincent Michel, ou on se dirige vers le standard ?
Je partage tout à fait l'avis d'Éric Blanchet et on peut attendre nos amis auditeurs. Ils nous sauront nous poser de bonnes questions, j'en suis sûr.
Eh bien voilà, vous devriez faire de la radio, vous. Sonia est avec nous. Bonjour Sonia.
Bonjour messieurs.
Bienvenue, nous vous écoutons.
Alors moi je suis donc maman d'une petite qui a une maladie génétique. Et comme beaucoup de parents d'enfants en situation de handicap, nous sommes en attente des propositions des candidats sur des propositions concrètes. Aujourd'hui, comme on l'entend, le milieu du handicap, qui, on a l'impression, n'existe que depuis hier, commence un peu à évoluer dans le sens où les parents se mobilisent. Et je pense que beaucoup de choses viennent des parents, tout simplement parce que tant qu'on n'est pas confronté au handicap, on ne peut pas deviner les besoins réels. Donc nous avons fait le travail plus que prémâché pour les candidats, c'est-à-dire que avec le collectif Handi Actif France, nous avons écrit à tous les candidats en leur préparant des dossiers complets sur les grandes thématiques que sont la prise en charge, la scolarité, les transports, le matériel, le rôle des aidants en tant que parents et pas uniquement, comme c'est un petit peu à la mode, parler des aidants notamment sur Alzheimer et autres. Mmh. Et en leur faisant part des constats réels de la situation, en leur faisant part de témoignages et surtout en proposant des situations concrètes qui souvent ne sont pas un problème d'argent, mais surtout des possibilités de mise en place de certaines choses, notamment pour ma part, je suis à l'initiative d'une proposition de loi qui est déposée à l'Assemblée nationale depuis plus de 3 ans sur la prise en charge des enfants handicapés en taxi, parce qu'aujourd'hui les taxis n'ont aucune obligation de siège auto et ne sont pas formés humainement à la prise en charge des enfants handicapés. Donc c'est quand même grave, les taxis transportent des enfants sans siège auto. Et quand on parle de citoyenneté, pour moi, avant, ça commence par le respect. À partir du moment où on prendra en compte le respect des personnes en situation de handicap et de leur famille et des aidants, ce sera déjà une première approche. Donc quand on parle de 12 millions de personnes en situation de handicap dont peut-être tous ne peuvent pas être en mesure de voter, il ne faut pas oublier que ces personnes ont des parents et des familles qui eux aussi ont une carte électorale et qui attendent de voter, c'est-à-dire que c'est aussi nous, nous sommes en attente de savoir comment voter, qui sera le plus à même d'écouter nos revendications et de mettre en place des choses concrètes pour que nous n'ayons plus à subir le handicap de nos enfants comme étant la fin du monde professionnel, social, que ressentent tous les parents d'enfants en situation de handicap.
Merci Sonia. Vincent Merci Michel rebondit sur votre intervention.
Oui, je partage tout à fait l'intervention de Sonia, et notamment lorsqu'elle dit que la question du handicap, c'est l'affaire des parents, et je dirais plus généralement, c'est l'affaire des usagers, c'est l'affaire des personnes concernées. C'est l'affaire des parents lorsqu'ils s'expriment au nom de leurs enfants, et puis c'est l'affaire des personnes elles-mêmes. Et je pense qu'effectivement, les personnes handicapées, leurs familles, ont grand intérêt à s'exprimer et à faire entendre leur voix au cours de cette campagne électorale. Et puis après, parce qu'après la campagne des présidentielles, il y aura celle des législatives. Vous avez fait état, madame, d'un projet de loi déposé depuis 3 ans. Le projet de loi, il est à l'Assemblée nationale. Donc il ne faudra pas oublier ce deuxième service d'élection, si je puis dire, et interpeller les candidats dans votre région. Ça sera peut-être un peu plus facile d'aller rencontrer les candidats députés que d'aller rencontrer les 11 candidats à l'élection présidentielle. Et c'est aussi très important, parce que la question du handicap, c'est une question collective. C'est pas simplement la question posée à un homme ou une femme qui aujourd'hui sollicite le suffrage de l'ensemble du corps électoral français. C'est une question qui est posée aux parlementaires. C'est une question qui sera posée demain au ministre en charge de ce sujet. Et l'affaire, je dirais, elle est entre nos mains. Elle est entre les mains de moi-même qui suis une personne handicapée et qui représente des personnes handicapées. Elle est entre les mains de vous, madame, parent d'une enfant handicapée. Et c'est à nous tous de porter ce sujet, de le faire nôtre et de le faire avancer.
Éric Blanchet, sur l'intervention de Sonia.
Je pense que les parents sont essentiels dans la petite enfance, puisque c'est eux qui garantissent l'avenir de leurs enfants, qu'ils soient valides ou handicapés. Après, ce que j'entends de madame, en fin de compte, c'est un peu l'aberration administrative dans laquelle on peut se trouver. Où aujourd'hui, cette lourdeur ou cette complexité fait que des fois, les solutions les plus simples ne sont pas mises en œuvre ou retenues. Ce que j'entends aussi, c'est que... et ça, je pense que c'est intéressant à voir. C'est-à-dire que le rôle des parents sur la jeunesse et la primo-jeunesse... Après, aujourd'hui, vous avez toute une génération de jeunes adolescents ou étudiants qui veulent leur autonomie, qui veulent exister avec leurs parents, certes, mais ils veulent prendre en reine leur vie, leur vie propre. Et il faut que la société leur permette ça. Et c'est pas une question d'argent, c'est souvent une question d'organisation, de d'engagement politique sur la vision de ce que l'on veut faire demain. Donc, et ce ne sont pas des mots. Enfin, aujourd'hui, permettre à une personne de vivre dans son logement coûtera peut-être moins cher si on a les capacités que de rester dans une institution. Donc, il y a cet enjeu-là.
Permettre à une personne handicapée de travailler, permettre à une personne handicapée de travailler coûte beaucoup moins cher que de le maintenir dans l'assistanat. Ça coûte moins cher, ça rapporte, et humainement, c'est autre chose.
On retourne au standard, messieurs. Je salue Jean-Pierre. Bonsoir,
oui,
monsieur.
Bonsoir.
Bienvenue.
Merci. Oui, voilà, je suis aveugle. Et je voulais faire une première grande remarque. C'est j'ai pas mal voyagé en Europe. Mmh. Et la France est, selon moi, dans tous les pays que j'ai visités en Europe, bonne dernière dans l'équipement des trottoirs. Mmh. C'en est carrément même scandaleux. Bon, les trottoirs français, un aveugle préfère parfois marcher sur la route parce que les routes sont mieux équipées que les trottoirs. Je ne parle pas des trottoirs récents où maintenant les vélos ont le droit de circuler. Je me suis fait, j'habite Tours, j'ai des vélos qui me sont rentrés dedans plusieurs fois. Et les gens ne s'excusent pas, bien entendu. Enfin, à Tours, ils sont tout là-dessus. Et donc, je m'étonne que notre pays qui a, paraît-il, depuis plusieurs années, entamé des travaux pour le handicapé, on n'est pas encore essayé de se mettre au moins à niveau. L'Espagne est mieux équipée que nous, au niveau des trottoirs. Vous circulez à Madrid beaucoup mieux que vous ne le faites à Tours, ou à Paris. Mmh. Deuxièmement, deuxième remarque, ce serait bien, et c'est une question, est-ce qu'il ne serait pas faisable de, dès l'école primaire, dans le cadre comment dire, qu'avant c'était de des leçons d'éducation civique, bon, d'apprendre aux enfants les signes du handicap. Je m'explique. Les cannes blanches. Plus personne ne connaît les cannes blanches. Vous rentrez chez un boulanger, vous demandez une baguette bien cuite, on vous la montre comme ça. Vous montrez votre canne, vous dites « je suis aveugle ». Ah, excusez-moi, je ne savais pas. Alors moi, j'explique aux gens, je leur dis « vous voyez, quand vous voyez quelqu'un avec une canne blanche, ça veut dire qu'il est aveugle ». Et moi, je trouve qu'on devrait, dès l'école primaire, apprendre aux enfants, quelqu'un qui a une canne blanche, c'est quelqu'un qui est aveugle. En France, vous avez 70% des gens qui ne font plus attention. Alors pourquoi dès l'école primaire, n'apprend-on pas aux enfants les signes du handicap ?
Merci Jean-Pierre pour cette question. Vincent Michel, toute la première partie de l'intervention de Jean-Pierre sur les trottoirs de France, de Paris, de Tours et la France. Bonne dernière, disait Jean-Pierre, par rapport à l'Espagne. Prenez cet exemple.
Bonne dernière, je sais pas, je trouve Jean-Pierre un peu sévère, parce que si vous allez dans certains pays d'Europe tout de même, je pense à la Grèce et à d'autres pays. J'étais récemment en Albanie ou en Roumanie, c'est tout de même pas glorieux. Donc voilà, l'Espagne, c'est vrai, est mieux équipée que nous. Et elle est mieux équipée que nous tout simplement parce qu'il y a une association représentative des personnes aveugles en Espagne qui est la fameuse ONCE, qui a des moyens assez considérables. Et ça pose effectivement le problème aussi dans notre pays, de l'organisation du monde du handicap. Et notamment, chez les personnes handicapées visuelles, il y a un émiettement du monde associatif qui ne plaide pas en faveur d'une puissance agissante. Et c'est un des sujets que je porte assez régulièrement en débat, parce que si nous ne savons pas nous organiser et faire force, nous n'arriverons pas effectivement à résoudre ces problèmes. Jean-Pierre a effectivement raison. Moi qui voyage tout seul, qui circule tout seul avec une canne blanche, c'est effectivement assez galère et il vaut mieux le faire dans les rues de Copenhague ou de Stockholm que dans les rues de Paris.
Et sur l'école, Jean-Pierre disait apprendre très tôt les
signes
du
handicap. Oui, c'est vrai qu'on a grand intérêt à sensibiliser les enfants qui sont en plus très, très, très ouverts. Moi, il m'arrive très souvent d'aller parler du braille, parler du handicap visuel dans des classes, des écoles maternelles ou primaires. Les enfants sont très ouverts à cette question-là. Je pense qu'effectivement, on pourrait faire mieux que ce que nous faisons.
Éric Blanchet.
Je pense réellement que la petite enfance est la porte d'entrée pour changer une société. Aujourd'hui, il y a des pays aussi qui apprennent aux plus jeunes les gestes de premier secours. qui rendent autonomes les futurs jeunes citoyens. Et donc, c'est la même chose pour le handicap. Rien n'empêche, mais vraiment rien n'empêche qu'il y ait des interventions. On ne demande pas obligatoirement aux instituteurs ou aux professeurs d'être compétents sur tout, mais il y a suffisamment d'associations et de bénévoles et de professionnels qui peuvent intervenir. Je vais juste parler d'une petite expérience que l'on fait actuellement à l'ADAPT. On a créé ce qu'on appelle Andy Mallette et on intervient en France dans les petites écoles qui justement pour accompagner, sensibiliser, former les jeunes classes justement à la problématique du handicap tout en s'amusant. Et je pense que chez les jeunes, ils n'ont aucune frontière, aucun blocage. Et c'est là-dessus qu'on doit aujourd'hui construire l'avenir.
C'est très juste. Lorsque je vais dans une école et que je présente un livre en braille, c'est tout de suite l'extase et l'intérêt. Donc c'est aussi à nous à agir sur le terrain. Il ne faut pas là aussi attendre tout de l'éducation nationale. Nos associations doivent être présentes dans ce secteur aussi.
Joël, bonsoir.
Oui, bonsoir. Bonsoir à toutes les personnes présentes et merci pour cette émission. Voilà, je suis invalide militaire. J'ai eu un grave accident, j'ai perdu la vue d'un œil et l'ouïe d'une oreille et physiquement j'ai été bien atteint. Mais malgré tout, je me suis battu tout le temps, j'ai travaillé normalement, j'ai fait des formations, je suis technicien, enfin j'étais technicien de maintenance en équipement thermique, j'ai fait un BTS et j'ai toujours travaillé et j'ai monté mon entreprise pendant 15 ans. Mes clients ne me voyaient pas comme un handicapé, pourtant vous voyez, j'ai un petit problème d'élocution. J'ai remarqué que dans les pays comme le Canada ou la Belgique, le handicap est pris vraiment comme une chose naturelle et bien épaulée. En France, c'est un peu dérisoire. Les handicapés ne sont pas dans la vie de tous les jours, naturellement. Or, l'handicap, il peut être de naissance, malheureusement, mais bien souvent, il est plus tard, à la suite d'une maladie ou d'un accident grave. Et moi, je voulais poser une question importante, quand allons-nous vraiment travailler sur ce problème et éduquer la population, mais dire aux politiques, vous savez, nous sommes des gens normaux, hein, finalement, malgré nos problématiques.
Merci beaucoup Joël pour cette intervention. La parole circule ici en studio, Éric Blanchet.
L'éducation des politiques, c'est vraiment un enjeu extrêmement important. On voit encore comment les parlementaires à l'Assemblée nationale ou les sénateurs peuvent réagir quand on parle de handicap.
Comment ?
Créons des places, faisons des établissements. Alors que pour bon nombre, je dis pas qu'il faut arrêter, je dis pas qu'il ne faut pas en faire, mais il faut en faire à bon escient. Parce que la plupart des personnes handicapées qui le peuvent souhaitent ne pas vivre en institution. Et c'est ça qu'il faut changer aujourd'hui. Et de toute façon, pour changer, il faut le faire avec les personnes handicapées. Il faut arrêter que ce soit toujours les sachants qui parlent et que les personnes handicapées subissent. Donc ça, je pense que c'est un élément important. D'ailleurs, on le voit dans les différents... campagne des personnes qui sont plus ou moins en situation de handicap et qui sont visibles, bien sûr, pour montrer l'intérêt qu'on porte à la personne handicapée. Mais je crois que ça va bien au-delà. C'est des groupes de travail, c'est réfléchir ensemble, c'est faire société par rapport à ce sujet-là. Parce que c'est un sujet qui va se développer de plus en plus. Les maladies invalidantes, le vieillissement de la population, le grand âge, donc la perte d'autonomie, comme on dit, ou la notion de handicap au vu d'un environnement qui est assez propice, va tous nous concerner à un moment ou à un autre dans notre vie. On n'en n'est pas encore conscient, mais je pense qu'on va vers une société qui va se fragiliser de par ces éléments-là.
Mmh. Canada-Belgique, pourquoi Vincent Michel ? Et puis ensuite sur les autres aspects de l'intervention de Joël.
Pourquoi ? C'est une grande question à laquelle je n'ai pas forcément la réponse. Ce sont des pays peut-être avec moins de références religieuses. Peut-être que... Il y a en France une vieille culture, peut-être aussi de l'exaltation de la souffrance qui ne plaide pas en faveur d'une évolution aussi rapide qu'on ne le souhaiterait de la société française. Bon, les choses bougent aussi. Je pense que Je rejoins Éric Blanchet là-dessus. Il faut que cette affaire, nous la prenions, nous, en charge. Il ne faut pas tout attendre des politiques. Voilà. C'est à notre mouvement, au mouvement des personnes handicapées, de se prendre en charge et de proposer aussi un certain nombre de solutions nouvelles, visant justement à cette autonomie de la personne. Mmh. N'attendons pas que les choses descendent d'en haut, créons nous-mêmes les conditions de cette prise en charge du handicap. Mmh. Après, il ne faut pas non plus tout jeter le bébé avec l'eau du bain. Hein. Il se fait quand même beaucoup de choses dans ce pays, il faut le dire. Un homme politique quand même nous a beaucoup apporté, c'est Jacques Chirac, qui avait fait d'ailleurs de la question du handicap un des grands chantiers de son deuxième mandat. Il faut le dire et le reconnaître.
Voilà. La grande loi de 2005.
Et la grande loi de 2017, de 2005, l'émanation procède de sa volonté.
Voilà. Hein, voilà. Thomas et Lucie au standard. Thomas, pour commencer, qui nous appelle de Corse. Bonsoir et bienvenue.
Oui, bonsoir. Voilà, je suis enseignant en lycée agricole et syndicaliste. Et moi, je voulais poser une question concernant la campagne. C'est qu'aujourd'hui, l'employeur public, que sont les ministères et les établissements publics, ne respectent pas le taux de 6% d'obligation d'emploi de personnes en situation de handicap. Et je voulais savoir... quelles étaient les mesures qu'on pouvait mettre en œuvre et quels étaient les engagements des candidats là-dessus.
Voilà, donc pour le secteur public, merci Thomas, Vincent Michel.
Oui, alors, d'une part, le secteur public ne respecte pas l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, mais il y a pire. Il y a pire, c'est que le gouvernement prend des dispositions qui sont, et a pris au cours des dernières années, des dispositions qui sont totalement condamnables, à savoir que la loi, je vais essayer de faire très court, la loi de 87 prévoit que si l'on n'embauche pas 6% de travailleurs handicapés, on peut s'exonérer en gros de cette obligation en versant une cotisation, une contribution à deux fonds qui sont l'AGEFIP pour les entreprises privées et le FIP pour les entreprises publiques. Ce qui est terrible, mon cher monsieur, c'est que depuis 3 ans, l'État a pris la fâcheuse habitude de prélever chaque année des sommes considérables sur ces deux fonds qui sont affectés à l'emploi des personnes handicapées pour les réinjecter dans le budget général. Par exemple, l'an dernier, on a prélevé 30 millions d'euros sur les fonds du Fonds public pour l'insertion des personnes handicapées, donc pour la fonction publique, pour sécuriser les universités suite aux problématiques d'attentats. Eh bien, ça, c'est tout à fait scandaleux. Je dis parfois que ce sont des mesures de voyous, et j'ose le mot, fort, mais effectivement, une des premières questions que nous avons posées, nous, associations de personnes aveugles, c'est est-ce que vous respecterez la loi, la réglementation, et est-ce que ces prélèvements indus cesseront ? On n'a pas de réponse, mais dès le président élu et dès le gouvernement formé, croyez-moi, nous reviendrons à la charge parce que il y a suffisamment de problèmes d'emploi chez les personnes handicapées. Un aveugle sur deux est au chômage aujourd'hui. Hein. Si, en plus, on prive les fonds d'insertion des outils leur permettant d'agir, alors, effectivement...
Après, pour compléter, peu de candidats ont une réponse sur ce sujet-là. On a quelques petits candidats qui ont été assez... vindicatifs sur le respect, en fin de compte, de la règle et qui disant il faut vraiment... avoir une action directe, même judiciaire, quand il n'y a pas de respect au niveau des fameux 6% dont vous parlez. Après, je crois qu'aujourd'hui, sans vouloir excuser qui que ce soit sur cette situation-là, il y a un vrai problème sur un sujet dont on parle très très peu dans cette campagne aussi, c'est la formation. Et l'accès à la formation pour une personne handicapée qui souvent est en rupture par rapport à un parcours professionnel ou qui a besoin d'un accompagnement spécifique pour aller vers l'emploi ou même vers le travail tout simplement, vers la compétence, est encore quelque chose qui est extrêmement compliqué dans le mode de répartition et d'organisation de l'accès à la formation en France.
Vous avez tout à fait raison, Éric
Vincent
Michel.
Mais
c'est tout à fait. Mais si effectivement on prive aussi les organes de formation d'un certain nombre de moyens qui leur permettraient d'agir, on n'avance pas. Donc effectivement, la formation, c'est un point central. Et pour le handicap visuel, peut-être encore plus que pour d'autres, hein, puisque nos codes du fait de notre handicap sensoriel sont quand même assez différents et appellent des techniques tout à fait spécifiques. Mais effectivement, c'est un vrai sujet de fond et il faudra bien le poser lors de la prochaine mandature.
Je rebondis juste sur la formation. Je pense qu'il faut pas être dans. Je pense que le besoin de formation, quel que soit le handicap, est un besoin qui est réel, parce que souvent, à la situation de handicap, on retrouve des problématiques de handicap social. Et si globalement, on n'arrive pas à remettre la personne dans une situation qui lui permette d'aller vers l'emploi, on va plus parler de handicap, mais on va parler de précarité sociale.
Merci donc pour cette réponse. Et Lucie, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Nous vous écoutons, vous nous appelez de Nantes.
Oui, alors moi j'appelle, tout à l'heure on parlait d'école, là on parle de formation, c'est un petit peu tout lié. J'ai été sidérée il y a quelques années, j'ai demandé à être AVS parce que ça m'intéressait, ça me plaisait. On m'a répondu que j'étais trop formée, que j'étais pas assez en situation d'insertion. On demande aux AVS aujourd'hui d'être en CUI ou en CAE, donc en contrat d'insertion et en contrat court. Est-ce que c'est normal que ce soit des gens qui sont en insertion sociale qui soit chargé d'accompagner les enfants qui sont eux-mêmes soit en situation de handicap, soit en situation de difficulté scolaire, que ce soit des gens qui eux-mêmes, visiblement, ont eu un petit peu de difficulté. Est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un aujourd'hui qui décide de changer quelque chose à ce niveau-là dans les programmes qui sont proposés? Je ne crois pas.
Merci Lucie pour cette question sur les auxiliaires de vie scolaire. Donc, Éric Blanchet.
Alors, si on doit parler un peu d'évolution positive, on est sorti de la précarité des auxiliaires qui accompagnent les jeunes. Mais je pense que ce que vous soulevez comme question est la préparation à ce métier. C'est-à-dire que on a mis malheureusement un certain nombre de jeunes un peu en difficulté parce qu'ils n'ont pas été préparés à l'accompagnement des jeunes en situation de handicap. Après, sur le niveau de formation, je pense que vous avez assez raison de fait de dire que pour mettre des jeunes en situation d'accompagnement, il faut qu'ils soient réellement, on va dire, au point pour ne pas fragiliser encore plus l'enfant qui est accompagné et sa famille. Ça me semble essentiel. Néanmoins, ne fermons pas non plus la porte aussi aux personnes qui souhaitent rentrer dans cette dynamique-là et qui n'ont peut-être pas le niveau de diplôme. Mmh. C'est là où la formation intervient.
Oui, là, on va rentrer dans le détail après et dans les diverses catégories et spécificités de personnes handicapées. Il est important aussi pour certaines personnes d'avoir un appui du secteur médico-social. Je pense aux enfants aveugles qui doivent apprendre les gestes de l'autonomie. Parce qu'on a parlé de la circulation, de la déambulation dans une rue aujourd'hui, mais ça s'apprend. Hein. Ça s'appelle les instructeurs en locomotion. Et quand vous savez aujourd'hui qu'on ne peut former en France actuellement, faute de moyens, qu'une douzaine de ces instructeurs de locomotion chaque année, ça pose un véritable problème. Donc, la question des personnes, de la qualification des personnes qui accompagnent les enfants dans la démarche d'inclusion scolaire, c'est une question capitale qui nécessite, qui fait appel à la formation de ces personnels et qui fait appel aussi, là encore, aux questions de moyens, de rémunération. Tout ça aussi, ça a un coût. Je sais bien qu'on ne doit pas forcément parler que d'argent, mais c'est parfois aussi le nerf de la guerre.
Michel, bonsoir.
Allô, bonsoir.
Oui, bienvenue dans le téléphone sonne.
Merci.
Nous vous écoutons,
voilà,
Michel.
Je pose la question, j'ai été amputée des deux jambes à 61 ans. Et quand il a fallu que je rentre chez moi, après plusieurs mois dans des centres, j'ai pas pu rentrer tout de suite parce que je n'ai pas eu les aides. Alors, c'est-à-dire que j'avais téléphoné à plein de gens, j'ai écrit à Monsieur Hollande, j'ai écrit à Monsieur Sarkozy pour avoir des aides. Et ben, passé 60 ans, vous n'avez plus le droit aux aides pour aménager ne serait-ce que la salle de bain en douche à italienne avec les fosses d'épandage, enfin bref, tout ça. Alors voilà où je pose la question. Heureusement que j'avais mes enfants, mes oncles, mes tantes qui m'ont aidée, parce que tout ça, rien que la salle de bain, ça coûte 15 000 euros. Or, moi, 15 000 euros, je venais d'être en retraite, je ne les ai pas.
Et oui, là, madame, vous posez...
Merci Michel. Vincent Michel vous répond.
Vous posez la question de l'application de l'article 13 de la loi du 11 février 2005 qui prévoyait que dans les 5 ans suivant la promulgation de la dite loi, la question des barrières d'âge serait supprimée. Et on est 12 ans après la promulgation de la dite loi et ces barrières d'âge ne sont toujours pas supprimées. Et effectivement, avant 20 ans, vous êtes un enfant. Après 60 ans, vous êtes une personne âgée. Entre 20 et 60 ans, vous êtes une personne handicapée. Et ce sont des barrières infranchissables. Et votre situation est effectivement devait d'être portée à la connaissance de nos auditeurs et de tous ceux qui nous écoutent. Nous avons interpellé le gouvernement, nous avons même fait un recours en Conseil d'État sur cette question qui méritera d'être reposée parce qu'effectivement, réduire les personnes qui sont aux prises avec une grave difficulté physique ou autre après 60 ans au rang de personnes âgées, c'est un vrai problème et je comprends tout à fait les difficultés que vous avez eues pour aménager votre environnement consécutivement à votre handicap. Et là, il y a une vraie question posée aux politiques et à laquelle il devra répondre.
Éric Blanchet.
Pour compléter ce que dit monsieur, ce qui est intéressant de voir, c'est que on n'est pas dans la couleur droite, gauche ou ailleurs sur ce sujet-là. Oui. Tous les parlementaires qui votent des lois ont voté la loi de 2005. Ils sont aussi responsables de sa non-application par rapport, on va vous dire, à la crise financière, par rapport à un certain nombre de choses. Mais la situation de madame est une situation de bon sens, ni plus ni moins. Comment peut-on aujourd'hui encore être sur ce type d'analyse, de passer de 59 à 60 ans et de ne plus pouvoir avoir accès à un certain nombre de lois ou de droits. On en revient à l'autonomie, on en revient toujours au sujet de l'autonomie. Est-ce qu'on est une société qui veut favoriser l'autonomie des personnes, qu'elles soient âgées, qu'elles soient jeunes ou qu'elles soient dans la force de l'âge, comme on dit, pour justement que la société soit beaucoup plus open qu'elle n'est aujourd'hui et qu'on arrête de créer des ghettos constamment en fonction de l'âge, en fonction du type de handicap, en fonction de la situation sociale, etc. etc.
Est-ce qu'il faut une nouvelle loi ? Est-ce qu'il faut refonder la loi de 2005 ou tout simplement l'appliquer ?
On n'en peut plus des lois, monsieur Demorand. On n'en peut plus. La France, dès qu'il y a un problème, on fait une loi, on fait un texte.
Mais celle-là a été utile et importante.
Mais appliquons déjà les choses et allons jusqu'au bout. Parce que, comme le dit monsieur, on aurait été jusqu'au bout de la loi de 2005 sur cet aspect-là. Il n'y aurait plus ce problème-là. C'est-à-dire qu'on lance... C'est une loi sociétale, cette loi-là. Ce n'est pas une loi qui va modifier des fois des choses dont on se demande vraiment l'intérêt. Mais globalement, si la loi de 2005 avait été appliquée quand même dans sa philosophie, au-delà de sa philosophie, dans les décrets qui auraient dû en sortir derrière, qui auraient dû simplifier les choses et aller vraiment sur la logique de la citoyenneté, eh ben, on n'aurait pas cette discussion aujourd'hui. Donc il y a un courage politique, si vous voulez, et multipartisme qui aujourd'hui rend un peu la sphère politique responsable de tout ça.
30 secondes pour la conclusion, Vincent Michel.
Vous devenez une personne handicapée à 59 ans et 6 mois, vous avez droit à la compensation, vous avez la même maladie, la même affection à 60 ans et 3 mois, vous changez de régime et vous n'avez plus droit au système de la prestation de compensation. Voilà. Donc, non, je pense qu'il ne faut pas une nouvelle loi, il faut appliquer celle qui existe, peut-être l'améliorer à la marge, mais c'est une question effectivement d'application des textes existants et de volonté de considérer la personne handicapée vraiment comme une personne. Je reprendrai une formule utilisée par Charles Gardou. Nous ne demandons pas simplement le droit de vivre, mais le droit d'exister et d'exister dans l'autonomie.
Voilà. Allez voter, messieurs, dames.
Allez tous voter.
Merci messieurs. Vincent Michel, président de la Fédération des aveugles de France, Éric Blanchet, directeur général de l'ADAPT. Merci aux très nombreux auditeurs d'Inter qui nous ont appelés ce soir dans ce téléphone sonne. Le journal à suivre.